les préservatifs de la pensée ou comment la philosophie nous préserve de nos préjugés. Une chronique philosophique présentée par Christophe Galli. Bonjour à tous. Comme chaque mois, je vous propose une réflexion philosophique à partir d'un problème contemporain mis sous la lumière des philosophes et des grands penseurs. Et ce mois-ci, je ne peux plus ne pas parler de l'horreur de l'actualité, de ce que l'homme fait à l'homme, de l'innommable à Gaza, en Ukraine, mais aussi au Soudan, au Myanmar. Partout, des peuples qui ont souffert font souffrir d'autres peuples, comme si l'homme se nourrissait du mal. Car c'est bien du mal radical et de la banalité du mal dont j'aimerais m'entretenir avec vous. Le 4 juin dernier, sur France Inter, l'ancien ambassadeur israélien en France, Eli Berbani, dénonçait la politique du gouvernement de son pays en clamant sa honte de voir, je le cite, « des individus qui devraient en prison être au pouvoir ». Il précisait que ce qui se passe à Gaza ne relevait plus de la guerre, mais de l'acharnement à vouloir supprimer une population civile entière. Le mal radical incarné par la volonté politique d'une extrême droite par essence folle.
Les dingues et les poumées jouent avec leur manie. Dans leur chambre blindée, leurs fleurs sont carnivores. Et quand leur monstre crie trop près de la sortie, ils accouchent de scorpions et peur des mandragores. Et leurs aéroports se transforment en bunkers. À 4 heures du matin, derrière un téléphone, leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue.
Le mal radical, sans doute est-ce une des questions les plus vieilles qui existent. Comment et pourquoi les êtres humains sont leurs pires ennemis? Pourquoi, alors que la paix et la coexistence sont la source d'une vie épanouie, les uns après les autres, les humains cherchent à se détruire dans les plus atroces souffrances? Socrate, le vénérable sage parmi les philosophes grecs, posait déjà la question il y a plus de 2500 ans dans les dialogues de Platon, en soutenant une thèse surprenante. Nul ne ferait le mal volontairement. Il s'ensuivait des démonstrations plus ou moins convaincantes qui faisaient rire ses interlocuteurs. Car effectivement, on ne peut pas croire que ce soit involontairement qu'un peuple qui a subi un génocide puisse lui aussi commettre des crimes contre l'humanité sous prétexte de sa sécurité, ou qu'un président nostalgique d'un empire jette ses troupes à l'assaut d'un ancien pays satellite uniquement par maladresse, ou qu'une junte militaire bombarde son propre peuple par négligence. Le mal est souvent volontaire, c'est dit. Néanmoins, ça ne répond pas à la question de pourquoi il existe. Car nulle part, sauf peut-être dans quelques académies militaires, le mal est promu comme un acte salvateur. Comment ceux qui commettent le mal peuvent justifier et vivre avec cette pensée ?
Michael Francis Rizzi, renonces-tu à Satan ?
J'y renonce.
À ses œuvres,
il ne s'agit pas de faire des leçons de morale venant d'un pays en paix, mais qui a commis lui aussi au cours des siècles précédents de nombreux crimes au-delà de ses frontières. Cependant, Carl Jung écrivait « Vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez. Lorsqu'un État se transforme en loup pour ses voisins et lorsque ses actions relèvent du pur mal, ses actes disent quelque chose de ce qu'il est devenu. » Non pas de ce qu'il est, car ça supposerait que certains peuples, de par leurs origines ou leur religion, seraient pires que les autres, ce qui est une absurdité. Nous allons partir du principe que les êtres humains sont semblables dans leur fascination pour la violence et leur tentation pour la destruction. Tous les criminels ne sont rien d'autre que des êtres humains.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging
et le philosophe peut vouloir comprendre, même si c'est une situation absurde et destructrice. Je vous propose quatre pistes de réflexion pour y voir plus clair. La première, nous la devons à Kant. Il explique que le mal radical est propre à l'humain, car seul lui a sa rationalité éveillée. L'animal est innocent car doté de son seul instinct, c'est-à-dire qu'il ne tend ni vers le bien ni vers le mal, il se contente d'être ce qu'il doit être. Seul l'homme a une vision de ce qu'il devrait être, de ce qu'il devrait faire. Toute la subtilité est là. L'être humain se projette au-delà de sa simple existence pour réfléchir à des idées. Certes, ça lui permet une forme de moralité, mais aussi de transgression. L'histoire de la liberté commence par le mal, écrivait le philosophe allemand. Le mal est donc pour lui une forme de chute morale, provoquée par la qualité principale qui nous distingue et qui devrait faire de nous des êtres supérieurs, la rationalité. Un seul exemple, nous n'allons pas reprendre la question des massacres perpétrés contre nos prochains, mais presque faire un détour. Kant cite Rousseau. Les inégalités sociales et l'exploitation de l'homme par l'homme ne sont pas les fruits de la nature et de l'instinct, mais des accidents de l'histoire. Il a fallu qu'un individu ait l'idée d'entourer un champ avec une barrière et qu'il se dise « ceci est à moi » pour que les malheurs de l'humanité commencent. Le mal existe et c'est une décadence lorsqu'on préfère ses intérêts particuliers à la loi morale.
La banalité du mal, c'est les préjugés quotidiens, c'est la bêtise ordinaire d'une injure raciale ou bien sexiste. Bien avant la Shoah viennent les croquis antisémites, dans la presse à scandale, à qui le crime profite. L'orgueil est à l'homme comme le ver est à la pomme, il mange tout à l'intérieur et ne laisse qu'un fruit pourri. Corrompt ta matière grise, dessèche le cœur et donne au miel de tes victoires comme un goût de moisi.
À cela, il y a trois types de causes. Tout d'abord, la fragilité de l'âme humaine qui peut vouloir le bien, mais fait l'inverse par la faiblesse de son âme. L'auteur latin, Ovide, le résumait à travers cette formule « Je vois le bien, je l'approuve, et je fais l'inverse ». Mais il y a aussi l'impureté des motifs et la perversité de la nature humaine qui existent. Nul besoin de faire une démonstration tant les exemples fusent à travers le monde et l'histoire. L'être humain a une fascination pour la violence, le plaisir de voir souffrir, de voir reconnaître cette domination sur l'autre, la jouissance de se sentir au-dessus de son ennemi. Kant reconnaît par là que certains individus préfèrent le mal au bien. C'est ce qu'on pourrait appeler des monstres. Hannah Arendt, philosophe américano-allemande, que je ne vous présente plus, n'est pas totalement d'accord. Elle fut chassée par les nazis dès 1933 et devint une figure intellectuelle majeure aux USA dès 1951 avec son livre sur les origines du totalitarisme. Et en 1961, elle assista à une partie du procès d'Adolf Eichmann, un des principaux organisateurs de la solution finale, exilé en Argentine, mais arrêté par les services secrets israéliens pour être traduit en justice à Jérusalem. Elle découvrit, avec effroi, un petit homme d'une grande banalité, ne se sentant pas particulièrement coupable de ce qu'il avait commis, car, disait-il, il n'avait fait qu'obéir aux ordres. Comme dans le système nazi, la volonté du Führer avait valeur de loi, il ne se posait même pas la question de la justesse de ses décisions. La fidélité aveugle était pour lui le bien par excellence. Une forme de banalité du mal, non pas dans le sens où le mal est banal, mais que des personnes banales sont capables de commettre les pires crimes.
Le problème avec un criminel nazi tel que Eichmann, c'est qu'il rejetait avec une grande véhémence toute implication personnelle, comme si plus personne ne restait qui puisse être puni ou pardonné. Il contestait sans jamais se décourager les affirmations du procureur Hausner et de l'accusation. Il assurait qu'il n'avait jamais fait quoi que ce soit de sa propre initiative. Qu'il n'avait jamais eu l'intention de faire le bien ou au contraire le mal. Il répétait qu'il n'avait fait qu'obéir aux ordres.
Le fonctionnaire qui se contente d'exécuter les ordres de sa hiérarchie, comme un simple rouage, n'est pas particulièrement pervers. Mais il peut être à l'origine des pires souffrances. Nous arrivons là à une autre idée. Au-dessus des individus, il y a l'État et son administration, comme autant d'étages où des décisions sont prises par des individus qui n'auront pas à les exécuter, et des exécutants qui ne chercheront pas à réfléchir à la portée des ordres reçus. Cet ensemble complexe de responsabilités déléguées, réciproquement, produit des rouages d'une machine qui peut se révéler si destructrice. Les uns, ceux qui sont responsables, sont loin de la violence et de la souffrance des êtres humains, et ils se servent de leur pure idéologie. Les autres, ceux qui exécutent se sentent protégés par le fait qu'ils sont de simples professionnels sans être les véritables auteurs de la décision. Ça nous permet d'arriver à notre troisième hypothèse. L'absence de visage facilite les actes barbares. À ce titre, les médias ont un rôle à jouer. Ne pas montrer le visage des victimes, les transformer en simples statistiques, préférer le récit d'une organisation terroriste à celle d'un peuple qui souffre, c'est rendre possible le meurtre de masse sans qu'on s'en émeuve. Emmanuel Lévinas, philosophe français décédé en 1995, expliquait que le visage était l'expression d'un individu, qui est une puissance qui résiste à ma puissance. Je peux toucher de force ce visage, le détruire ou le balafrer, mais je ne peux pas atteindre l'expression profonde qu'il représente. Certes, le meurtre entre visages connus n'a jamais vraiment été empêché. Caïn et Abel, les deux fils aînés d'Adam et Ève, furent les premiers dans l'Ancien Testament à s'entre-déchirer. Mais la présence du visage empêche la banalisation des actes barbares. Tu ne tueras point sans être puni. C'est une sentence morale bien différente de l'absence de culpabilité lorsqu'on massacre des populations en toute impunité, car on ne les voit pas. Cela explique aussi pourquoi notre émotion sélective face aux guerres. Lorsque les victimes sont proches de nous, nous ressemblent, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être meurtris. Lorsque l'Ukraine, si proche de l'Europe, est envahie, cela nous révulse de voir les meurtres commis par l'armée d'envahisseurs, car il nous semble que les victimes sont nos frères. Lorsque Gaza devient martyr, nous nous déchirons selon nos idées politiques, car ce conflit est présent sur nos écrans depuis si longtemps que nous l'avons intériorisé. Nous sommes beaucoup moins sensibles aux douleurs des peuples de la lointaine Asie ou de l'Afrique. Peut-être parce que nous gardons dans notre inconscient collectif le fait que nous les avons colonisés et qu'ils nous ont rejetés à travers les guerres du siècle passé. Notre indignation est toujours à géométrie variable. Leurs visages nous apparaissent si différents.
Tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois, et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes, hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais trois fois son poids normalement. Un homme moyen comme cette victime-ci, c'est trois fois son poids. Et sinon, par exemple, ça change, hein. Tu as pour les enfants, pour les nains, ça change. Pour un enfant, il est plus léger, un enfant, hein. C'est deux fois son poids. C'est quatre fois son poids. Comment ?
Le mal est donc lié à la nature humaine. Preuve, presque, d'une intelligence plus développée que chez les animaux. Oh, je me doute que cette phrase va vous paraître suspecte et bancale. L'intelligence devrait être une marque de la sagesse, de la recherche de la meilleure des solutions. Mais c'est pourtant une autre idée que je défends dans cette chronique. L'intelligence humaine se caractérise par le développement de la rationalité. Et cette dernière peut faire du mal sa raison dernière. Rousseau disait « Il serait triste pour nous d'être forcés de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous les malheurs de l'homme. Cette faculté, c'est la perfectibilité, c'est-à-dire la capacité de l'homme à évoluer tant vers le bien que vers le mal.
Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers, nous et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers. Ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux.
Vous pouvez retrouver cette chronique et quelques-unes supplémentaires dans le recueil édité sous le titre « Chronique par mon et par vous », disponible dans toutes les bonnes librairies. Je remercie RPHU des Radio Pays d'Hérault pour avoir rendu possible ces chroniques, et plus particulièrement Solène à la technique et au montage. Si la philosophie vous intéresse, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, où j'enregistre régulièrement des chroniques. Vous pouvez y retrouver le lien sur le site de RPHU. Mais en attendant, je laisse le dernier mot à Jacques Higelin.